VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 4 août 2016. Au sommaire ce soir...
La lutte continue au Tchad pour Saleh Kebzabo. Le chef de file de l'opposition prévoit une marche dimanche et une journée ville morte lundi pour l'investiture du président Idriss Déby Itno.
Nous ne parlons plus maintenant au nom des 6 candidats. Les 6 candidats et leurs alliés ont créé le FONAC, le Front pour l'opposition nouvelle pour la finance et le changement.
Municipal en Afrique du Sud, le dépouillement se poursuivait aujourd'hui. La bataille est serrée, mais l'ANC semble perdre du terrain.
Soudan du Sud, l'ONU dénonce les viols et pillages de l'armée gouvernementale.
Qui y dirige Boko Haram ? Aboubakar Shekau se dit encore présent peu après son remplacement par le groupe État islamique.
Ne manquez pas nos rubriques économie et sport.
Mais d'abord, le journal.
Au Tchad, le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, s'est adressé à la presse à la suite de la démission de Gali Gatan Gote et Brice Mbaimon Gedmbaye, deux des 6 candidats à la présidentielle qui remettaient en cause la validité de l'élection d'Idriss Déby Itno. Pour une réaction, Claire Morin-Gibourg a joint N'Djamena Saleh Kebzabo.
Je voudrais d'abord préciser que nous sommes des candidats très heureux parce que nous pensons que c'est nous qui avons gagné l'élection. Ensuite, il ne s'agit pas de démission. L'un comme l'autre disent qu'ils sont pour Brice Gedmbaye momentanément mis à l'écart. Et l'autre dit qu'à son retour, puisqu'il attend du Tchad, il entreprendra un dialogue avec nous pour remettre les choses en état. Je voudrais préciser que nous ne parlons plus maintenant au nom des 6 candidats. Les 6 candidats et leurs alliés ont créé le FONAC, le Front pour l'opposition nouvelle pour la finance et le changement. Donc c'est cet organe-là maintenant qui compose plus de 25 partis politiques qui répond des 6 candidats. Et donc vous voyez bien que s'il y en a un ou deux qui partent, et ce n'est même pas le cas, ce n'est pas très inquiétant pour nous.
Saleh Kebzabo, leader de l'opposition tchadienne et coordonnateur du FONAC, le Front d'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. République démocratique du Congo, l'envoyé de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, appelle Kinshasa à libérer des détenus politiques pour faciliter un dialogue avec l'opposition en vue de la tenue de l'élection présidentielle. Koen Verwijk s'exprimait en marge d'une réunion du groupe international de soutien de la facilitation et au dialogue politique en RDC, composé des représentants de l'ONU, de l'Union européenne, de la francophonie, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté de développement d'Afrique australe.
RDC toujours, 8 agents du tribunal de paix ont été arrêtés à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la disparition d'un dossier lié à la condamnation de l'opposant Moïse Katumbi à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière.
L'insaisissable leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a refait surface aujourd'hui pour affirmer qu'il était toujours présent. Le groupe État islamique avait annoncé son remplacement, Anastasie Tudiech.
Les gens doivent savoir que nous sommes toujours présents, a affirmé Aboubakar Shekau dans un message vocal posté sur YouTube. Il réagit à l'entretien d'Abou Mossab al-Barnaoui dans l'hebdomadaire officiel du groupe État islamique, le présentant comme le nouveau chef du califat de l'Afrique de l'Ouest. Shekau menace de ne plus suivre l'État islamique aveuglément et affirme ne plus accepter aucun émissaire de l'État islamique, sauf ceux vraiment engagés dans la cause d'Allah. Il a également dit avoir été trompé par certains de ses combattants et par Daesh. Il avait prêté allégeance au groupe terroriste en mars 2015. L'annonce de son remplacement par l'organisation État islamique révèle d'importantes divisions au sein du groupe djihadiste nigérian.
L'armée égyptienne a annoncé aujourd'hui avoir tué le chef de la branche du groupe djihadiste État islamique dans la péninsule du Sinaï, qui mène des attaques visant essentiellement les forces de sécurité depuis plus de 3 ans.
Le Niger, lancement d'une campagne inédite de prévention du paludisme couplée au dépistage de la malnutrition aiguë. Lancée à Torodi dans le sud-ouest du pays, cette mesure s'étendra sur 4 mois. Il vise à toucher 2,6 millions d'enfants âgés de 3 mois à 59 mois, a rapporté l'UNICEF à Niamey.
Les soldats de l'armée gouvernementale sud-soudanaise ont commis des viols, meurtres et pillages pendant et après les récents combats à Djouba. C'est le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui le dénonce. Zaïd Raad al-Hussein a appelé aujourd'hui le Conseil de sécurité à prendre des mesures urgentes. Jacques Aristide.
Le haut commissaire Al-Hussein précise avoir documenté au moins 217 cas de violences sexuelles à Juba entre le 8 et le 25 juillet. Dans certaines zones, dit-il, des femmes de plusieurs groupes ethniques ont été violées par des jeunes lourdement armés qui seraient affiliés aux ex-rebelles de la SPLA-IO. Cependant, les plus affectées, ajoute-t-il, sont des femmes et des filles de l'ethnie Nuer, l'ethnie de Riek Machar, et les responsables semblent être des hommes de l'armée gouvernementale. Pour le responsable onusien, la gravité des récentes violences et leur élan dangereusement ethnique appellent à des mesures urgentes de la part du Conseil de sécurité. Les forces du président Salva Kiir ont combattu du 8 au 11 juillet les ex-rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar. Des combats à l'arme lourde qui ont fait au moins 300 morts, poussé 60 000 personnes à fuir le pays et mis en péril un accord de paix signé en août 2015. Ces combats ont coïncidé avec le 5e anniversaire du plus jeune État africain.
Afrique du Sud, on attend toujours les résultats des élections municipales. Le dépouillement se fait au compte-gouttes. Bagassi Koura, cela semble confirmer l'incertitude des résultats dans plusieurs grandes villes.
Jusqu'en début d'après-midi, deux tiers des bulletins avaient été dépouillés, plaçant le Congrès national africain en tête avec 53,4% des voix devant l'Alliance démocratique avec 27,7%. Le dépouillement ne devrait pas s'achever avant vendredi. Depuis hier soir, l'issue du scrutin reste incertaine dans trois villes majeures dont Pretoria, la capitale, Johannesburg et Port-Elizabeth. Si la suprématie de l'ANC n'est pas menacée dans la plupart des métropoles, la perte d'une ou de plusieurs grandes villes va fragiliser le parti au pouvoir. Un recul de l'ANC serait particulièrement un coup dur pour le président Jacob Zuma dans la perspective des élections générales de 2019. Depuis sa réélection en mai 2014, les nuages s'amoncellent au-dessus de lui entre crise économique et une série de scandales.
Madagascar, le nouveau code de la presse adopté début juillet par le Parlement est actuellement examiné par la Haute Cour constitutionnelle, a indiqué aujourd'hui un collectif de journalistes qui espère que ce texte, qu'il juge liberticide, sera rétoqué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, publication d'un mandat d'arrêt à l'encontre du prédicateur Fethullah Gulen, actuellement aux États-Unis. Le gouvernement turc l'accuse d'être l'auteur du coup d'État manqué du 15 juillet. Ankara a réclamé son extradition, sans toutefois faire de demande formelle en ce sens. Gulen, un ancien allié du président Erdogan, devenu son pire ennemi, a nié toute implication dans la tentative de putsch ayant fait plus de 270 morts. Son réseau d'écoles et d'œuvres caritatives, présent dans 160 pays, est l'une des principales cibles de la purge en cours en Turquie.
En Afghanistan, les talibans ont revendiqué une embuscade durant laquelle six touristes étrangers et leur chauffeur afghan ont été blessés ce jeudi. L'incident s'est produit à Herat, dans l'ouest du pays. Un porte-parole des insurgés a déclaré que le groupe visait un convoi conjoint de l'ennemi et a publié un bilan plus lourd. Selon certaines sources, parmi les touristes, il y avait trois Américains, six Britanniques, un Allemand et deux Écossais. Par ailleurs, un hélicoptère de transport de l'armée pakistanaise s'est abîmé aujourd'hui dans la province montagneuse de Logar en Afghanistan. Aucun bilan officiel, mais six personnes ont été emmenées par des hommes armés vers une destination inconnue selon les autorités locales.
Au Bangladesh, plus d'un mois après l'attaque terroriste qui a fait 20 morts dans un restaurant de Dhaka, la police vient d'arrêter deux hommes soupçonnés d'y être impliqués. Le Britannique Asnad Karim et Tamid Khan, un étudiant de l'Université de Toronto, ont été appréhendés hier nuit et maintenus en détention préventive pour 8 jours sur l'ordre d'un tribunal. Les deux se trouvaient dans le restaurant au moment de l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Toute cette semaine, la police a identifié un citoyen canadien, Tamim Chowdhury, comme le cerveau de l'attaque. Les autorités cherchent à vérifier s'il a des liens avec l'organisation djihadiste.
Une commission spéciale du Sénat brésilien a voté aujourd'hui à Brasilia en faveur de la destitution de la présidente suspendue, Dilma Rousseff, à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Un jugement final à la fin du mois pourrait mettre fin au second mandat de la dirigeante de gauche.
Ici aux États-Unis, les nouvelles sont de plus en plus mauvaises pour Donald Trump et la campagne républicaine pour la Maison-Blanche. Selon les résultats d'un sondage publié aujourd'hui, Hillary Clinton conforte son avance dans trois États clés qui pourraient déterminer l'issue du scrutin. La candidate démocrate mène par 9 points dans le Michigan, 15 points dans le New Hampshire et 11 points en Pennsylvanie. Au plan national, Mme Clinton devance son rival par environ 6 points, bien que la chaîne Fox, proche des conservateurs, la place à 10% devant Donald Trump.
Lutte contre Zika. L'Institut de recherche de l'armée américaine basé à l'hôpital Walter Reed, près de Washington DC, a mis au point un vaccin contre le virus qui s'est montré parfaitement efficace lors des premiers tests sur des animaux, a-t-il annoncé aujourd'hui. Dans ses travaux publiés dans le magazine Science, le Walter Reed Institute explique avoir testé son vaccin avec succès sur des souris, puis sur des macaques rhésus dont la réponse immunitaire après vaccination se rapproche beaucoup de celle des humains.
Quelques 46 membres présumés de plusieurs clans de la mafia ont été interpellés aujourd'hui à New York. Ils sont suspectés d'une série d'activités illégales, notamment de l'extorsion et l'organisation de jeux d'argent clandestins.
Le pape François a effectué aujourd'hui un pèlerinage éclair à Assise, dans le centre de l'Italie, à l'occasion des 800 ans du pardon d'Assise, une cérémonie initiée par Saint François pour absoudre gratuitement les péchés des pauvres.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec John Lyndon.
196 milliards de francs CFA, c'est ce que la Banque islamique de développement mettra sur la table pour sa participation au financement du train express régional qui reliera Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne Diaz. La décision a été confirmée par le conseil d'administration de la BID à Jeddah. African Rainbow Capital, la firme d'investissement détenue majoritairement par le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, a entamé des négociations pour l'acquisition de la société d'assurance et de gestion des risques AfriNet. C'est ce que rapporte l'agence Bloomberg. Patrice Motsepe, dont la fortune est estimée à 1,7 milliard de dollars, a lancé African Rainbow Capital en avril dernier. Les systèmes financiers décentralisés, un secteur de la microfinance de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont collecté un montant total de dépôts de 1 025 milliards de francs CFA à la fin mars 2016, soit une progression de 13% par rapport à la même période l'année dernière, souligne la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Et J-1 avant l'ouverture des JO de Rio, le tournoi de football masculin débute ce jeudi.
Oui Morgane, et ce premier match entre l'Irak et le Danemark qui s'est achevé par un 0-0. À suivre Honduras-Algérie, l'entrée en lice des équipes africaines. L'Afrique du Sud face au pays organisateur, le Brésil. Mexique-Allemagne, Portugal-Argentine. Colombie, Suède, Fidji, Corée du Sud et en fin de soirée, le Nigeria contre le Japon.
Hier chez les dames, beau succès des Américaines.
Oui, victoire 2-0 contre la Nouvelle-Zélande. Le Brésil bat facilement la Chine. L'Allemagne qui explose. Le Zimbabwe 6-1. Et puis les Sud-Africaines battues de justesse 1-0 par la Suède.
La grande cérémonie d'ouverture, c'est demain.
Oui, et l'athlète nigérien Abdulrazak Alfaga voudra briller pour remporter la deuxième médaille de l'histoire de son pays. Écoutez ses impressions avant le tournoi olympique.
C'est ma première participation aux Jeux olympiques. Vraiment, je suis content aujourd'hui d'entendre l'hymne national qui a retenti sur le sol du Brésil. Donc vraiment, Inch'Allah, j'aimerais que ça soit plusieurs fois que ça a retenti dans ce pays. Objectif ici à Rio, c'est de remporter une deuxième médaille pour le Niger.
Abdulrazak Alfaga au micro d'Alvaro Alba, l'envoyé spécial de VOA au Brésil.
Et un mot de football africain.
La Confédération africaine de football a annoncé la suspension de l'équipe de Guinée équatoriale pour les trois prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le Mali profite de cette affaire de passeport de joueuse pour être repêché pour cette CAN 2016 qui aura lieu en novembre prochain au Cameroun.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Dans notre série sur les familles des présidents en Afrique, nous partons au Mali. Épouses, enfants ou autres parents des chefs d'État sont souvent impliqués dans la gestion du pouvoir de façon directe ou indirecte. L'actuel président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, ne fait pas exception. Son fils est devenu député, le beau-père de ce dernier est lui-même président du Parlement malien, d'autres neveux, nièces et cousines seraient entre le gouvernement et les services de l'État. Dossier de Kassim Traoré.
Lors de la présidentielle de juillet 2013, Ibrahim Boubacar Keïta, président et candidat du Rassemblement pour le Mali, avait comme slogan « Le Mali d'abord, l'honneur et la dignité des Maliens ».
C'était une parole d'Ibeka pour que les gens puissent voter pour lui. Sinon, il nous a démontré qu'il s'en fout complètement de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il a placé presque toute sa famille dans le pouvoir.
Élu comme président de la République, son slogan « Le Mali d'abord » a été transformé en « Ma famille d'abord ». Cela à cause de plusieurs nominations et élections de certains de ses enfants. Django Koulibaly.
Moi, je pense quand même que depuis 3 ans, le bilan n'est pas à hauteur de celui. Il a fait la gestion du pays une affaire de famille. Ça a beaucoup impacté sur sa gestion. Sinon, Ibeka, même en tant que lui, on sait qu'il aime ce pays.
Les membres de la famille du président de la République dans les affaires n'est pas une mauvaise chose, selon Bouguiri Diarra du parti IMRDA, membre de la majorité présidentielle.
Notre famille au pouvoir, comprenez que notre famille, nous sommes autant maliens que tant d'autres. Si nous avons les mêmes droits que les autres maliens, pourquoi ne pas être là aux affaires avec d'autres maliens? Et moi, je ne vois pas en quoi cela peut déranger ou cela peut être facteur de quoi que ce soit. S'ils n'ont pas la compétence requise, là, ça pose des soucis. Mais du moment où la famille a les mêmes compétences que tant d'autres maliens, je pense qu'il y a lieu de voir ces questions parce qu'il ne faut pas que nous apprenions à être injustes.
La famille d'abord, c'est aussi au niveau du Parlement malien, où le fils du président de la République est député aux côtés de son beau-père, président de l'Assemblée nationale. Karim Keïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, son nom est sur toutes les lèvres à Bamako.
Aujourd'hui, moi, je pense que l'honorable Karim Keïta, il faut le saluer parce que ça a été courageux de sa part d'accepter d'aller au charbon. Aujourd'hui, il a été élu par une commune et non par son père parce que c'est des Maliens encore qui ont voté pour lui, pour qu'il soit là où il est. C'est pas le fils du président qui nous intéresse, mais ce que Karim peut donner au peuple, c'est de cela qu'il s'agit.
La gestion du pouvoir par Ibrahim Boubacar Keïta a déçu pas mal de Maliens qui pensaient qu'il était l'homme de la situation. Gabriel Tchenou.
On ne peut pas apporter de changement avec la gestion du pouvoir avec une telle famille de pouvoir. Parce qu'on ne peut pas prendre de décision. Et quand quelqu'un de la famille faille à sa mission, il est difficile de prendre des sanctions en la matière et que ce soit vraiment rigoureux.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24. La République centrafricaine est encore loin d'atteindre une stabilité politique malgré un climat apaisé depuis l'arrivée au pouvoir en début d'année de Faustin Archange Touadéra. C'est du moins l'un des constats dont fait part l'ONG American Enough Project dans un nouveau rapport intitulé « Tour de manège à Bangui ». Pour en savoir plus, Jacques Aristide a joint Natalia Duncan, analyste et chercheuse pour la RCA Enough Project.
Il se trouve que la RCA a tenu des élections présidentielles et législatives en début d'année 2016. Et depuis lors, un calme précaire régnait dans le pays. Mais cela cachait le fait que l'entièreté du territoire continue d'être contrôlée par des groupes armés, du banditisme, qui fragilise la situation sécuritaire du pays. Des flambées de violence sont régulièrement constatées dans les zones rurales, mais également à Bangui. Et ceci, en fait, n'a rien de nouveau. Le reflet d'une succession de crises depuis des décennies. L'idée de ce rapport est de mettre le doigt sur les causes profondes de la crise en Centrafrique pour sortir de l'idée que simplement les violences actuelles sont le résultat d'une crise actuelle uniquement.
Quelles en sont les causes profondes, justement ?
Donc le rapport publié par le INOF Project appelé le Bangui Carousel, manège à Bangui, met le doigt sur le problème de gouvernance et les élites politiques qui, finalement, un petit nombre d'acteurs à chaque fois sont placés à des positions clés du gouvernement central et répètent un système de corruption, de patronage et de patrimonialisme avec les revenus publics. Et ceci a eu pour effet d'appauvrir la Centrafrique tout en enrichissant un petit nombre d'acteurs. Ceci a également profité à l'instabilité. Ceci a également amené les groupes armés à combattre pour l'accès au pouvoir, mais également recherchant un enrichissement personnel.
Mais vous semblez également dire dans le rapport qu'il y a de l'espoir, que des solutions existent. Quelles sont donc vos recommandations ?
Tout à fait. Donc avec le nouveau gouvernement, l'espoir est grand parmi les Centrafricains que le régime actuel changera la donne et le cours de l'histoire. Parmi les recommandations clés, il s'agirait de mettre en place des institutions anticorruption qui soient robustes et indépendantes afin d'assurer que les revenus publics soient effectivement collectés et évidemment dépensés pour le développement du pays. En termes de transparence dans la gestion des ressources naturelles et l'allocation des contrats, ceci est tout à fait également important, considérant que la Centrafrique est un pays riche en ressources naturelles. Également, l'une des recommandations est la question de l'impunité. Imposer des sanctions spécifiques à des individus qui menacent la stabilité et la paix seraient également des outils que la communauté internationale devrait renforcer, mais également dans leur mise en œuvre.
Natalia Ducan, analyste et chercheuse pour la RCA INOF Project Washington.
Cap sur le Burkina Faso, créé en 1990, le PMUB ou Paris Mutuel Urbain Burkinabé s'est positionné comme le produit phare de la nationale des jeux de hasard, la loterie nationale du Burkina. À Ouagadougou et un peu partout dans le pays, la fièvre du cheval ne cesse de monter avec l'espoir pour les parieurs de se voir multimillionnaires en misant sur des chevaux qui courent en France. Immersion dans l'univers des parieurs de Ouagadougou avec Zoumana Wanogo.
Historiquement, le Burkina Faso a un lien très fort avec le cheval, mais cela suffit-il à expliquer l'engouement des Burkinabés pour les courses hippiques qui se déroulent en France ? Mahamadi Boli, retraité de la compagnie Air Afrique, explique.
Qu'est-ce qui dans ce pays peut permettre aux Burkinabés moyens de gagner 1 million si ce n'est pas le PMU ? Je ne vois pas. Le PMU au moins, tu peux voir des gens qui ont gagné 5, 10 millions que tu connais même si toi-même tu n'as pas gagné.
Le slogan du PMUB, Paris Mutuel Urbain Burkinabé, est la fortune en fin de course. Comment les parieurs s'y prennent-ils pour faire les jeux ? On écoute Moussa Tapsoba.
Nous, on se réfère au niveau des programmes qu'on nous donne gratuitement à l'ONABE. Il y a des jockeys que, bon, à force de les voir, il y a un certain Jean-Michel Bagir, il y a les A. Abouivard, il y a la famille Martin, il y a les Nivard. Ils sont beaucoup qu'on connaît. Une fois qu'on prend le programme comme ça, on voit comment ils sont en forme. On échange avec eux sur le papier. Et en plus, il y a des journaux de la place tels que Défi, Tiercé Magazine. Et puis ensuite, d'autres parieurs aussi. Ils ont des petits papiers que on paye à 100 francs, on peut regarder le coup sur le tocard, bon, et puis on s'inspire de ça, et puis bon, il y a l'intuition. S'agissant, bon, si c'est un tiercé 3 chevaux, ou si c'est un quartet les 4, ou un quintet comme ça, on fait un groupe de jeux, bon, on cotise, on joue, et puis on attend.
Joanny Widraougo s'est initié, lui, à l'Internet.
Grâce au PME, j'ai appris l'Internet, je me débrouille avec. Je rentre et puis je cherche le site qui donne les numéros, comme les jockeys. Donc ça nous aide aussi. Moi, je travaille au moins 3 sites comme ça. Je joue avec un niveau quinté et puis Carré Magique. Je joue avec Paris Tissot aussi. Si j'habite à faire l'Internet, ça, mais je n'ai pas encore eu l'argent. Je donne grâce à Dieu.
Dans les clubs PMU, où se font les paris, suivant le quotidien
des vendeuses avec Madame Geneva Ouidraogo.
Il y a des périodes difficiles, mais il faut faire avec. D'autres peuvent écrire un 5 qui ressemble à un 6. Il y a d'autres aussi, ils écrivent, tu leur demandes, ils crient sur toi. Il faut dire de jouer. Tu joues après, tu lui remets le ticket, il te remet que de changer, que c'est pas ça. Ou bien il y a d'autres aussi qui jouent et qui reviennent le lendemain, te dit d'annuler tous ces problèmes.
Comme pour bien porter son nom, jeu de hasard, l'erreur des vendeuses sur les numéros ne profite pas aux parieurs difficiles. Suivons ce cas d'école avec Madame Geneva Ouidraogo.
Par exemple, le parieur te donne un 7. Tu te trompes, tu mets un 5 ou un 6 et il dit qu'il ne veut pas. Et deux fois, c'est l'arrivée. J'ai revendu le ticket et ça a gagné. Certaines reviennent le lendemain dire, hey, « Madame, si je savais, vous vous êtes trompé. Moi, je vous ai remis, je vous ai engueulé. » J'ai dit, « Oh, c'est le permis. » C'est question de chance.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et c'est l'heure de parler politique américaine sur VOA Afrique, à moins de 3 mois de la présidentielle, en novembre prochain. On retrouve Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir, Morgane.
Donald Trump, toujours sous le feu des critiques dans son propre camp.
Oui, le candidat républicain qui a rencontré hier soir en Floride des familles de militaires américains morts au combat. Donald Trump, dont la campagne connaît de nombreux soubresauts depuis la convention de Cleveland. Ce jeudi, le journal Washington Post titrait même que le parti républicain était à un nouveau niveau de panique autour de la campagne du candidat Trump. Le directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, était l'invité d'ABC News aujourd'hui. Il a tenté de rassurer tout le monde. On l'écoute.
Le soutien pour Donald Trump est là. Le message de la campagne a été défini. Les thèmes de cette campagne également. Je crois qu'il essaie différents messages au cours des meetings. Il a eu plein de succès pendant les primaires. Il tire sa force et son message de ses interactions avec le public.
Paul Manafort, le directeur de campagne de Donald Trump.
D'autant que les derniers sondages ne sont pas en faveur du milliardaire new-yorkais.
Et oui, dans les swing states, vous savez, les États qui basculent d'un parti vers l'autre lors des élections, Hillary Clinton mène largement en Pennsylvanie, dans le New Hampshire ou dans le Michigan. Du côté de Donald Trump, on annonce déjà que l'élection de novembre sera biaisée. Ces accusations de fraude ont fait réagir la Maison-Blanche par la voix de John Ernst, son porte-parole, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse.
Ce sont des allégations qui sont souvent faites par des gens qui ne gagnent pas les élections. Le président a confiance dans l'intégrité de notre processus électoral et tout le monde devrait faire de même.
John Ernst, le porte-parole de la Maison-Blanche.
Et une bonne nouvelle tout de même pour Donald Trump.
Oui, puisqu'il a réussi à lever 80 millions de dollars de fonds pour le mois de juillet. C'est moins qu'Hillary Clinton, la candidate démocrate, qui a levé 90 millions de dollars. Mais pour vous donner un chiffre, Morgan, Donald Trump a déjà dépensé depuis le début de sa campagne 56 millions de dollars de sa fortune personnelle.
La campagne, justement, où en est-on ce jeudi ?
Mike Pence, le colistier de Donald Trump, était à Raleigh, en Caroline du Nord, pour parler énergie ce jeudi. Mais il a aussi critiqué l'administration Obama, qui s'excuse, selon lui, éternellement et favorise les ennemis des États-Unis. De son côté, Tim Kaine, le colistier démocrate, était à Baltimore, dans le Maryland, pour parler urbanisme et grandes villes américaines. On l'écoute.
Si Hillary Clinton et moi gagnons en novembre, vous aurez deux personnes qui comprennent les défis auxquels sont confrontées les villes américaines. Et nous nous engageons à travailler avec vous pour les résoudre. Je crois en nos villes qui sont une source unique de notre force nationale.
Tim Kaine, le colistier démocrate.
Merci Nicolas Pineau. La campagne présidentielle américaine, c'est à retrouver dans un dossier spécial sur voafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
On est à...
arrivé à la fin de cette édition. Merci Lionel Gaïma qui a assuré la mise en onde de ce soir avec l'assistance technique de Nachouane Calé à la console. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique, votre fenêtre sur l'actualité. Merci à nos 1,5 million de fans sur Facebook. On maintient la conversation. Partagez vos photos et vidéos. Envoyez-nous vos questions et commentaires. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.